Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Tati Mampoukou. Okapi.
Salutations auditrices de Radio Okapi, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, votre magazine qui traite les questions de la vie au quotidien. Quelle est l'importance de la médecine vétérinaire en RDC? Nous en parlons avec Dr Alain Moukoua Moulonso, il est président de l'Ordre National des Médecins Vétérinaires de Kinshasa. Bonjour Dr Moukoua et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour.
Si ce thème vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Envoyez vos témoignages, commentaires et questions au numéro 099-706-9941. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous attendons également vos commentaires et témoignages dans le courriel dénommé service@radiokapi.net. Tati Mampoukou, c'est moi qui présente et coordonne ces numéros sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Élise Kavira est à la réalisation et Debs Vita s'occupe de la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ces rendez-vous d'Okapi Service.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi ou encore le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Quelle est l'importance de la médecine vétérinaire en RDC? Nous en parlons dans cette première partie du magazine Okapi Service. La médecine vétérinaire en RDC joue un rôle crucial, hein, bien que souvent sous-estimé parce que les médecins vétérinaires ou les vétérinaires sont essentiels, hein, pour prévenir et contrôler les zoonoses qui sont des maladies transmissibles entre les animaux et les humains, comme la rage et la tuberculose bovine par exemple. En assurant la santé des animaux d'élevage, les vétérinaires contribuent également à la sécurité alimentaire en garantissant la qualité et la sécurité des produits d'origine animale, y compris son apport dans la sécurité alimentaire. Quelle est l'importance de la médecine vétérinaire en République démocratique du Congo? C'est de ce thème que nous sommes en train d'aborder dans cette première partie du magazine Okapi Service avec Dr Alain Moukoua Moulonso. Nous rappelons qu'il est président de l'Ordre National des médecins vétérinaires de Kinshasa. Docteur, première question. Dites-nous, quel est le point de la rencontre entre la médecine humaine et la médecine vétérinaire et les points de séparation?
Merci beaucoup. En réalité, le point de rencontre entre la médecine vétérinaire et la médecine humaine, c'est l'homme. Que ce soit la médecine vétérinaire qui soigne les animaux, que ce soit la médecine humaine qui soigne l'homme, les tout, c'est pour le bien-être de l'homme.
Et dans la pratique du métier
et dans la pratique du métier, que ce soit un médecin vétérinaire ou un médecin humain, nous tous, nous sommes maintenant dans le contexte actuel qu'on appelle une santé.
Une santé, approche une santé.
Oui, nous sommes dans le contexte une santé. D'ailleurs, même quand vous regardez, vous observez, quand la nature se détériore, par exemple, les embouteillages à Kinshasa, quand il y a la pluie qui emporte les maisons, il y a des inondations. En fait, tout ça, quand les animaux sont infectés, et l'homme est infecté. Et pour trouver une solution, il faut intégrer les trois. L'environnement, la médecine vétérinaire et la médecine humaine.
Oui, mais ce que nous constatons...
Voire même les écosystèmes.
Exactement. Mais ce qu'on constate sur le terrain est que la médecine humaine a tendance à être beaucoup plus avancée en termes des infrastructures, en termes des ressources humaines par rapport à la médecine vétérinaire. Si nous voyons par exemple les laboratoires vétérinaires, l'INRB et le laboratoire vétérinaire de Kinshasa, il n'y a pas photo.
Évidemment, cette observation est très, très, très poignante, mais c'est l'obscurantisme de nos dirigeants. C'est l'obscurité, au fait, la politique ne sait pas lire les événements. Dans tous les pays du monde, un médecin vétérinaire et un médecin humain, on ne distingue pas tellement. Tous sont des médecins. Mais ici, même à la période de Covid, je vais vous dire quelque chose, on m'a attrapé à la période de Covid trois fois au moins. Parce que je suis tout le temps en contact avec les animaux. Quand tu regardes du côté de l'INRB, plein de véhicules, plein de moyens, tous les pays du monde amènent les moyens. Et quand tu regardes du côté des laboratoires vétérinaires, rien du tout. Mais je vous rappelle que ces laboratoires sont des niveaux quand même assez avancés. Ces laboratoires sont capables aujourd'hui de nous produire les vaccins. Ce que l'INRB ne peut pas faire. Et ces laboratoires produisent des vaccins. Quand on produit les vaccins, ça dit que les laboratoires sont au niveau 5 ou au niveau 4. Mais pour faire certains tests, il faut, par exemple, l'ADN, il faut mettre dans une mallette et envoyer en Afrique du Sud. Non. Les pays n'interprètent pas bien les choses. Mmh. C'est pourquoi, avec comme danger, nous consommons à la poubelle. Toute la ville de Kinshasa, même vous, quand vous allez rentrer le soir ici, vous allez consommer les déchets. C'est-à-dire, vous allez consommer les mbanga, les makoso, les mikila, les surgelés, dont vous ne connaissez ni l'origine, ni celui qui les a produits, ni la période qu'on les a produits, alors que nos pays voisins, déjà quand quelque chose est mis dans le congélateur, ils ne consomment pas. Donc, le pays doit se réveiller. Nous devons nous réveiller. La médecine vétérinaire est très importante. C'est même stratégique.
Surtout que nous sommes dans un pays tropical, dans la forêt, on a des forêts denses. Il y a parfois des maladies périodiques qui affectent des animaux, qui contaminent également l'homme.
Nous sommes dans un immense pays. Nous sommes dans un très grand pays où il y a tout et où les animaux sont partout. Et où on ne peut pas vivre sans les animaux. Et les animaux peuvent affecter l'homme à n'importe quel moment. Mais où le médecin vétérinaire et la médecine vétérinaire est négligée. Négligée totalement jusqu'au point où, si on vous dit les salaires d'un médecin vétérinaire ici, vous serez scandalisé. Non! Non! Alors que c'est l'essentiel. Est-ce qu'on peut ignorer l'essentiel? Quand on ignore l'essentiel, on s'engouffre. Et c'est ce qui est en train d'arriver.
Et vous, au niveau de la corporation, est-ce qu'on peut avoir une idée sur les activités que vous réalisez parce qu'au fait, s'il faut dire en termes de formation, ici, à ma connaissance, il y a l'université de Kinshasa qui forme des médecins vétérinaires, il y a également Idelou et puis Isav à Kimwenza. En termes de main-d'œuvre, il faut reconnaître que il y a moins de médecins vétérinaires à travers les pays sur le 2 345 000 km².
Oui, il y a moins de vétérinaires parce que la communication que le pays a utilisée était très mauvaise. Alors que c'est essentiel, on devait être 5 ou 10 000 fois de plus que le nombre de médecins. Parce que si la médecine vétérinaire est prise au sérieux, les gens ne vont pas tomber malades. Moi, chez moi à la maison, il suffit que les enfants soient nourris de manière assez correcte. Il suffit que la propriété soit respectée, un certain bon nombre sont respectés, les enfants ne tomberont pas malades. Mais si nous mangeons n'importe quoi, quand vous allez dans les pays limitrophes, vous trouvez que la moyenne de la population est de 60 ans quand vous êtes sur la rue. Mais quand vous êtes à Kinshasa, la moyenne de la population est de 40 ans. Qu'est-ce qui se passe? Et tous ces jours au niveau de l'alimentation, tous ces jours au niveau des conditions de vie, tous ces jours à ce niveau-là. La négligence de l'agriculture et de l'élevage a des effets dans tout notre système, y compris l'armée, y compris la sécurité de notre pays, y compris tout, même la recherche scientifique. On ne peut pas la faire avec ventre affamé. On fait quoi? Or, la production, c'est la médecine vétérinaire. La sécurité alimentaire, même si le ministère de l'Agriculture dit que la sécurité alimentaire, c'est une aberration. En réalité, la production, c'est et la médecine vétérinaire, et l'agronomie, et l'environnement. Nous devons produire.
Ce sont des domaines qui doivent aller ensemble et non minimiser un autre au dépens d'un autre.
Oui, oui. Minimiser la médecine vétérinaire et penser qu'on est en train d'élever la médecine humaine, c'est une grosse erreur. C'est là qu'on échoue même. Le nombre des animaux est plus grand que le nombre des humains. Mais vous allez gérer les humains comment sans gérer les animaux. D'ailleurs, la médecine vétérinaire, l'homme, c'est un animal. Nous, quand nous faisons la médecine vétérinaire, nous étudions à l'université, nous étudions au même titre l'homme, les animaux et l'homme. C'est-à-dire, si on compare les cerveaux de l'homme, nous comparons les cerveaux de l'homme à tous les autres animaux. Et chaque fois que nous faisons de l'anatomie ou de la physiologie, nous faisons de la physiologie d'abord animale, d'une manière générale, mais nous comparons à la physiologie de l'homme. C'est pourquoi nous avons même les cours de physiologie comparée des animaux domestiques, y compris l'homme.
Aujourd'hui, docteur Alain Moukoua, est-ce qu'il y a des laboratoires vétérinaires à travers la République, dans toutes les grandes villes, parce qu'on est un pays sous-continent?
Il y a des laboratoires vétérinaires avec des gens pleins de pléthores de PhD. Ici à Kinshasa, c'est plein de pléthores de PhD. Et ces laboratoires produisent même les vaccins. Aucun laboratoire humain ne peut produire les vaccins. Or, si c'est les laboratoires vétérinaires produisent les vaccins, c'est-à-dire en cas d'endémie, en cas de problème grave, ces laboratoires peuvent donner une réponse.
Oui, mais des vaccins contre quelle maladie, docteur?
Et par exemple, les charbons symptomatiques, par exemple, la maladie de Newcastle. N'oubliez pas que l'anthrax, c'est déjà un problème. En Ituri, là-bas, il y a déjà un problème d'anthrax maintenant, là. Hein? Mais les laboratoires de Kinshasa produisent les vaccins. Mais les gens qui produisent ces vaccins, ils sont dans quelles conditions? Les pays ignorent l'essentiel. Tant que les gens n'ont pas encore mangé, tu peux construire les routes, tu peux construire les buildings, tu peux construire tout ce que tu veux. Hein? Il n'y aura rien de bon.
Parce que concernant l'impact socio-économique des activités de médecins vétérinaires, on peut se dire que vous jouez un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire de la République.
Oui, l'impact de la médecine vétérinaire dans tous les pays, le rôle est essentiel dans la santé publique et dans la vie au quotidien. Parce que dis-moi ce qu'il y aura sur ton assiette aujourd'hui, je te dirai qui t'y est.
Le 26 avril, et donc c'est demain, vous organisez une activité. Dites-nous sur quoi va se dérouler cette activité-là. Est-ce qu'il y a des thèmes principaux qui feront l'objet de cette rencontre?
C'est pourquoi, donc, en regardant ce qui se passe dans les pays, nous avons cherché des cadres de visibilité. Les cadres de visibilité, par exemple, demain, ça sera la journée mondiale vétérinaire que nous allons fêter en République démocratique du Congo. Nous allons nous rencontrer dans la grande salle de l'église Fatiban, l'amphithéâtre de l'église Fatiban, à partir de 9h, où nous allons développer les thèmes, par exemple, quelle stratégie prendre pour nourrir Kinshasa. Au lieu d'importer 80 à 90% de la nourriture dont nous ne connaissons même pas l'origine. Le lait nous vient de l'Arabie Saoudite. Toi, tu penses qu'entre nous, il y a de l'herbe là-bas pour nourrir les vaches. Bon, ça c'est un autre problème.
C'est un pays semi-désertique de toutes les façons.
Mais c'est ce qui arrive. C'est-à-dire, quand tu entres dans nos supermarchés, tu trouves même les beurres d'arachide en provenance de l'Iran. Non, mais c'est pas sérieux. Qu'est-ce qui se passe à ces pays? Les beurres d'arachide et les laits en poudre. Tous les pays limitrophes de la République démocratique du Congo ne consomment pas les laits en poudre. Mais pourquoi nous, on consomme les laits en poudre?
Docteur Moukoua, la sécurité alimentaire, c'est la panacée des ingénieurs agronomes ou de vous, médecins vétérinaires?
Mais les médecins vétérinaires, c'est un polyvalent. Moi, si tu as la chance de venir dans mon laboratoire, je travaille sur la technologie alimentaire aussi. Si je te montre les histoires que je travaille, il n'y a pas de différence avec tout ce qu'on importe. Mais en provenance de notre pays. Le médecin vétérinaire, c'est un technicien de très haut niveau. Il fait 6 ans à l'université. Il a des connaissances en agriculture. Il a des connaissances sur les animaux. Il a des connaissances sur l'homme.
Mais qu'est-ce qui fait que sur
c'est
le terrain,
polyvalent.
Mais qu'est-ce qui fait que sur le terrain, on ne voit pas l'apport des médecins vétérinaires dans le quotidien de la population congolaise?
Mais c'est tout simplement la politique. Tu sais que pour engager les premiers médecins vétérinaires à l'INRB, il fallait que la Belgique intervienne. Il fallait que la Belgique intervienne. Non, il faut les prendre.
Il faut les intégrer aussi.
Il faut être malade. Comment on peut construire l'Institut national de recherche sur la science biomédicale sans un seul médecin vétérinaire? Au ministère de l'Environnement, il n'y a pas de médecin vétérinaire. Au ministère du Plan, moi-même, j'étais au ministère du Plan quand je suis arrivé à Kinshasa pour demander ce qu'on pouvait m'engager. Le directeur arrive jusqu'à me chasser dans son bureau. Mais tout ça, comment on peut planifier un pays sans les médecins vétérinaires? Tout passe par là.
Est-ce qu'à l'époque de l'épidémie de Covid, vous étiez associé également dans l'équipe Task Force qui a été mise en place, vous le médecin vétérinaire?
Non. Je ne crois pas. Comme je suis médecin vétérinaire indépendant, je n'ai pas beaucoup de connaissances en ce que l'État est en train de faire. Mais je ne suis pas sûr. Associé à un certain degré. À un certain degré. Et surtout, malheureusement, nos confrères humains ne comprennent pas que nous avons fait la même chose et nous sommes en train de nous battre pour la même cause.
Oui, mais sur quoi est fondée cette discrimination, docteur Alemoukou?
Cette discrimination a une pathologie, une seule. C'est la politique. Les politiques qu'on met, vous imaginez, les ministères, moi je suis pas contre les ministres de l'agriculture et de l'élevage en République démocratique du Congo. On met le ministre, et quelqu'un qui a fait, il a fait les droits ou je ne sais quoi. On met le secrétaire général, lui aussi a fait c'est la biologie. Vous pensez qu'avec eux, nous allons comprendre l'importance et nous allons comprendre comment produire dans ce pays? Non, on n'arrivera jamais. La politique ne résout pas tout. La politique ne résoudra jamais tout dans notre pays. Il faut mettre la politique de côté et chercher les compétences dans la population. Il y en a.
Est-ce que ce n'est pas lié au développement des facultés ou de la science à travers les pays?
Non, c'est lié à une certaine aliénation des quotas. Nous avons mis un système comprador dangereux dans le pays. C'est-à-dire où la compétence ne compte pas. Les services de renseignement devaient savoir avec beaucoup de précision qu'il existe un monsieur à tel endroit qui peut nous aider à produire beaucoup de maïs au lieu d'importer le maïs. Les services de renseignement devaient savoir qu'il existe un monsieur à tel endroit qui peut nous aider à produire le lait au lieu que nous puissions importer le lait en poudre. Le lait en poudre, vous savez sa composition, vous savez d'où il vient, savez c'est quoi.
Je ne suis pas chimiste, docteur.
Tu ne le sauras jamais parce que c'est tout ce qu'on consomme.
Et est-ce qu'au niveau des services de quarantaine, c'est vous qui avez pignon sur rue ou ce sont d'autres spécialités qui prédominent là-bas?
Je t'ai dit, pour que l'on puisse donner au médecin vétérinaire, il fallait des palabres et des palabres. C'est seulement maintenant qu'on vient de mettre un médecin vétérinaire au service de quarantaine. D'ailleurs, on dit quarantaine animale, quarantaine, alors que nous sommes en train de parler de île santé et ils parlent de quarantaine végétale, quarantaine ceci. Tout ça, ça ne sert à rien. Parler de la quarantaine sécurité intérieure.
D'où l'importance, docteur, de penser aux états généraux du secteur de la médecine vétérinaire.
Je pense que ça vaut le coup.
Il y a un problème, il y a vraiment un problème de...
Je pense qu'il y a un très gros problème. Je pense que ça vaut le coup. Si le pays aujourd'hui vit uniquement des importations, alors que nous sommes dans un pays, le pays le plus beau, le plus grand qui puisse exister sur la planète, je pense qu'il y a des gros problèmes qu'il faut résoudre.
Quelle est l'importance de la médecine vétérinaire en RDC? Nous en parlons dans la première partie du magazine Okapi Service. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous appeler pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct.
Okapi.
Okapi. Dites-nous, docteur Moukoua, en termes d'infrastructures de base, est-ce que nos universités sont bien équipées pour la formation des médecins vétérinaires? Est-ce que dans vos laboratoires, vous recevez des candidats qui sont coachés pour qu'ils deviennent des médecins vétérinaires suffisamment rodés?
D'une manière générale, comme au niveau international, il y a un peu d'évolution. Hein. C'est l'évolution du niveau international qui est en train de nous porter vers le haut. C'est-à-dire, dans nos universités, par exemple, les enfants commencent de plus en plus
à s'intéresser à
la médecine vétérinaire. Mmh. Il y a de plus en plus de PhD. Il y a dans nos laboratoires, par exemple les laboratoires centrales de Kinshasa, il y a de plus en plus de PhD qui bénéficiaient des bourses de l'USAID ou de la Belgique, mais le pays lui-même ne donne pas de bourses comme ça aux jeunes gens. Et ça, nous souhaitons qu'ils puissent le faire. Formons nos enfants à des sciences pointues pour que demain l'avenir soit paisible. Si nous ne le formons pas, mais qui va nous fabriquer? Tout le monde utilise les drones, tout le monde utilise les laits, tout le monde... Mais qui va nous fabriquer toutes ces histoires-là? Ceux qui sont brillants, il faut les amener à un niveau de production, à un niveau de formation, tel que demain qu'ils puissent produire.
Parce qu'il y a par exemple des épidémies qui surviennent
Il y a des endémies très graves, des pandémies même, des pathologies qui peuvent frapper les animaux et frapper l'homme. Par exemple, la rage, de manière générale, à Kinshasa, elle est endémique. Donc si tu es mordu par un chien, si tu ne fais pas d'effort pour avoir les vaccins, si c'est un chien qui passe là, errant, tu vas mourir. Tu vas mourir. Et dans tous les pays limitrophes, les gens ne se servent plus dans la forêt. Les gens produisent leurs aliments. Et mais pourquoi nous, on doit continuer à nous servir dans la forêt? Pourquoi on doit continuer à battre les arbres, continuer à nous servir dans la forêt? Parce que la politique est la plus mauvaise. Tout hein, tombe sur la politique. Nous devons changer notre manière de voir les choses.
Tout, docteur, comment ça marche sous notre cieux?
Sous d'autres cieux.
Comment est-ce que le secteur de la médecine vétérinaire est organisé? Comment ça fonctionne?
Sous d'autres cieux, le secteur de la médecine vétérinaire est d'abord prioritaire. C'est-à-dire, on ne peut pas envisager la sécurité d'un pays sans envisager la sécurité de la production. Sans envisager ce que l'on appelle les réserves stratégiques. Est-ce que c'est la médecine vétérinaire qui vous amène à une grande production? Si vous produisez beaucoup de viande d'antilope, beaucoup de viande de crocodile, on aura tous des ceintures, des crocodiles élevés.
Et de
si
la
vous
viande
produisez
aussi.
Beaucoup et de la viande, évidemment. Si nous produisons beaucoup de viande des vaches, nous aurons tous des belles chaussures et nous aurons tous du lait pour donner à nos enfants. Mais maintenant, nos enfants ne connaissent même pas les laits frais. Pourquoi? Parce que certaines personnes ont été à des endroits ou sont à des endroits où ils ne peuvent plus rien faire, si ce n'est leur poche.
Et aujourd'hui également, on constate, docteur, les abattoirs publics n'existent presque plus. Et il y a des gens qui se débrouillent, hein, qui se débrouillent au coin des rues pour abattre les bétails, vaches, porcs et autres, sans respect des normes. Ça, c'est aussi très dangereux, docteur.
Tous les pays du monde, y compris les États-Unis, subventionnent leurs élevages. Ils subventionnent leur agriculture parce que c'est prioritaire. Mais dites-moi, quand est-ce qu'on a subventionné nos abattoirs là-bas? On abat les vaches à Galipède en cours de route. On abat la chèvre n'importe où. Dans les autres pays, tu dois amener à l'abattoir public qui est très bien subventionné par l'État et qui est propre. Parce que
on suit l'état de l'animal. Est-ce qu'il est en bonne santé? Est-ce qu'il doit rester au repos?
Voilà. La sécurité sanitaire de l'animal, c'est la même que la sécurité sanitaire de l'homme. Nous sommes entrés dans un piège dangereux. Et nous devons sortir de ce piège. Subventionnons l'agriculture et l'élevage. Nous n'avons pas de choix. Au lieu d'importer n'importe quoi à Kinshasa, nous n'avons pas de nourriture.
Oui, mais
je l'ai dit un jour dans un taxi, on a failli me lapider là-bas.
Mais la République a des inspecteurs vétérinaires, docteur, qui font le contrôle de ces produits qui sont acheminés ici.
Mais malheureusement, tu sais, chez nous, le grand problème, c'est quoi? C'est que nous ne mettons pas l'accent sur la formation. Ce qui fait que la plupart des gens qui sont dans nos services n'ont jamais été dehors. Même tu vas voir quelqu'un à l'aéroport qui vous demande taxe, fouta, taxe, fouta, et taxe, fouta, tu payes les taxes. Et quand tu lui poses la question en profondeur, as-tu déjà été dehors? Tu sais ce qui se passe? Il ne sait pas. Mais pourtant, c'est lui qui fait payer les taxes hein, à l'aéroport. Mais quand tu vois les autres pays, la manière dont ils subventionnent, même les pays limitrophes, à midi, tout le monde mange. À midi, tout le monde dit c'est l'heure du lunch, ils arrêtent tout, ils mangent. Mais pourquoi? Est-ce que vous, même en travaillant sur Radio Capi, à midi, tu arrêtes tout, tu vas manger. Tu vas manger où? Il y a un restaurant peut-être ici. Mais même si tu vas manger quoi? Dans les autres pays, tu peux manger en cours de route. Tu peux prendre les laits frais en cours de route. Tu peux prendre beaucoup de choses de grande valeur biologique en cours de route. Même les jus demandent les prix d'un jus naturel.
C'est un problème de potentialité ou un problème organisationnel, docteur?
Non, c'est un problème organisationnel. C'est un problème organisationnel et un problème d'aliénation. Un problème d'aliénation et un problème, comme je l'ai dit toujours, la politique est malade. Moi, je ne suis pas un politique. Je ne suis même pas dans un parti politique. Mais en les observant là, c'est vraiment malade.
Oui, mais
essayons de nous réveiller.
Oui, mais avec des réformes, on a mis en place le ministère de la Pêche et Élevage. Agriculture, il y a un ministère dédié et puis il y a tout un ministère pêche et élevage. Et donc, vous avez votre place dans le concert de la gestion du pays.
Dans quelle confusion? Si tu veux comprendre, va là où on dit ministère de pêche et élevage. Si tu regardes seulement l'environnement dehors, tu vas comprendre le degré de confusion. Si tu veux connaître quelqu'un, hein, va là où il dort. Tu vas voir dans sa maison comment il range les choses pour comprendre ce qu'il est. Va au ministère d'élevage. Je ne critique pas le ministère d'élevage. Il apporte aussi beaucoup de bien. Mais quand tu regardes dehors, déjà dehors, ce qui se passe, le spectacle est très désolant. Les gens arrivent à 12h, ils discutent pendant quelques minutes, et puis ils parlent de la politique, et puis ils cherchent comment rentrer. Et ils vont rentrer comment? Et ils viennent aujourd'hui, ils viennent après 3 jours, ils viennent après 5 jours. Non, non, c'est pas ça. C'est pourquoi j'ai refusé personnellement de travailler comme fonctionnaire de l'État. Parce que je sais que c'est pas ça le travail.
Mais est-ce qu'au niveau de la corporation, vous faites un plaidoyer pour qu'on puisse également augmenter les budgets? Augmenter les budgets au niveau gouvernemental, allouer les budgets affectés au secteur de l'agriculture, pêche et élevage?
Évidemment, c'est un grand souci pour nous tous. Mmh. C'est un grand souci pour nous tous. Mais est-il que... Je vais te donner un exemple. On a coupé les courants chez moi, on coupe les courants dans notre quartier à tout moment. Et j'ai demandé au monsieur qui coupe les courants, il dit que pour que les moteurs se reposent. Il dit, ah, mais comment en Allemagne on avait coupé les courants la dernière fois en 1979? C'est-à-dire là-bas, les moteurs ne se sont jamais reposés jusqu'à maintenant. J'ai demandé, mais pourquoi tu les fais comme ça? Il dit d'ailleurs, vous avez suffisamment de courant. Chez moi, à Massimanim, on nous donnait seulement de 22h et de 20h à 22h. J'ai compris pourquoi on coupe les courants. Ça dit que la personne ne sait pas ce qui se passe ailleurs et la personne n'a pas été formée. Préparons nos dirigeants. Préparons nos dirigeants. Si nous nous préparons pour nos dirigeants, nous les nommons seulement comme on les nomme là, parce qu'il appartient dans tel ou tel autre parti politique. Ce qui arrive à la fin, c'est ça, les résultats. C'est que nous ne savons même pas quoi manger.
Mais est-ce qu'une fois mobilisés, les médecins vétérinaires, les ingénieurs agronomes peuvent arriver à assurer la sécurité alimentaire de la République démocratique du Congo?
Une fois mobilisé, subventionné et résubventionné, je pense que la République démocratique du Congo peut nourrir toute l'Afrique.
Mais est-ce que également aussi il y a la démographie qui augmente? Avant les deux premiers pillages, c'était plus ou moins assuré, mais c'est avec les temps, il y a aussi la dimension insécurité dans l'est du pays qui parfois occasionne aussi cette crise alimentaire, docteur.
Non, c'est pas là le problème. C'est un secteur oublié, c'est un secteur où les pauvres gens se débrouillent avec les peu qu'ils peuvent avoir. Mais une fois les secteurs est considéré, une fois les secteurs est subventionné, la République démocratique du Congo, je le répète encore, peut nourrir tous les autres.
Alors, si tel est le cas, aujourd'hui, demain, vous allez tenir une activité ici à Kinshasa pour parler de la sécurité alimentaire au niveau de la ville de Kinshasa. Quels sont les acteurs qui sont impliqués, qui sont invités dans cette activité-là, docteur?
En fait, sont invités dans cette activité les chefs des grands services de l'État, les éleveurs, les médecins vétérinaires, les paraprofessionnels vétérinaires et les personnes de bonne volonté de part et d'autre. Voilà, c'est une activité ouverte. C'est une activité ouverte où nous réfléchissons à haute voix. Nous voulons réfléchir à haute voix pour créer une certaine conscience nationale. Une certaine conscience nationale.
Sur l'importance de ces métiers.
Sur l'importance de la médecine vétérinaire et l'importance de l'agriculture, l'importance de l'élevage. Parce que les tout, c'est lié. Sinon, nous continuons à manger ce que nous avons sur la route, les poissons.
Mais si il faut parler de la relance, docteur Alemou, quoi, par où commencer exactement? S'il faut redynamiser le secteur?
Par où commencer?
Parce que par le passé, il y avait des cheptels.
Il faut éviter de créer des monuments blancs. Il faut éviter de créer les monuments blancs. Les monuments blancs, c'est comme Tselé dans les temps, c'est comme Kisanga. C'est comme Bukangalozo.
Non, mais Daipen a connu un âge d'or, docteur, à l'époque.
C'est seulement l'âge d'or.
Bukangalozo, oui, mais Daipen.
C'est en apparence. Ce sont que des conflits. Parce que ce sont des biens qui n'appartiennent à personne, finalement, par la suite. Ça crée des conflits et ça crée. L'État ne peut pas faire à la place de la population. Si vous voulez faire des grandes choses, responsabilisez la population. Conscientiser la population, former la population, les amener à faire de l'élevage, les amener à faire de l'agriculture. Si vous faites pour la population, le résultat est toujours le procès. Ça n'a jamais été. Le peuple autour de Bukangalonzo, il s'est réveillé un matin, il voyait des tracteurs avec double charrie en train de travailler dans tous les sens, sans comprendre même pourquoi et ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont utilisé des pesticides à l'époque qui ont tué même tous les holacodes, même dans les Kouilou là-bas. Il y avait des holacodes dans les Kouilou. Mais tous les holacodes ont été tués à cause d'un produit qu'on a utilisé à Bukangalonzo. Arrêtez de nous créer des monuments blancs. Mais plutôt responsabiliser la population. Conscientiser la population et former la population. Comme dans tous les autres pays du monde, la population va se charger de ça. Rien dans tout, sans problème. Ils vont produire. Non. Mais ne les faites pas à leur place. Si vous les faites à leur place, vous vous transformez en leur ennemi. Ils vont le combattre.
Donc il faut qu'il y ait adhésion, mais en même temps aussi il faut qu'il y ait des poules de production. La zone de l'Est, par exemple, par rapport au climat, c'est l'élevage des gros bétail dans la partie ouest.
Là, j'aime beaucoup les vieux fouets de la Côte d'Ivoire. Lui, il est responsabilisé chaque village selon le potentiel de ces villages. Quand vous allez, par exemple, d'ici Kikwit, en cours de route, on va te dire que la banane plantain, hein, tu vas la trouver à tel endroit. On va te dire que les maniocs, tu vas atteler à tel endroit. C'est ça les potentiels naturels. Les potentiels naturels, il faut le favoriser. Parce que ce sont eux qui peuvent produire plus. Mais si le potentiel naturel n'est pas favorisé, le résultat est ce que nous avons. C'est-à-dire, on finit par organiser des procès. Bon, moi, je n'entre pas dans ces procès-là. On ne comprend plus d'où on vient et où on va.
Et est-ce que concernant l'organisation des métiers au sein de la corporation, vous faites des plaidoyers et est-ce que on vous écoute?
En fait, on n'a pas l'impression qu'on est écouté, hein. On n'a pas l'impression qu'on est écouté, mais bon, moi je crois qu'il y a des oreilles qui nous écoutent. parce que progressivement, nous sommes en train de renverser la vapeur. C'est-à-dire, nous sommes en train de changer les choses. Le ministère de l'élevage s'est séparé de l'agriculture. Mmh. Et puis, il y a de plus en plus des initiatives dans les domaines de l'élevage, surtout dans les secteurs privés. Et méfiez-vous, hein, même si nous vivons des importations, la ville de Kinshasa a quand même une économie souterraine, hein, une économie basée sur la production locale qui est en train de faire son travail. Et je crois qu'une fois qu'elle est boostée un tout petit peu, elle peut amener beaucoup de choses.
Oui, mais en même temps aussi, il y a la réduction des espaces dédiés aux activités agricoles et d'élevage.
Cette réduction est due principalement à l'insécurité à l'intérieur du pays. Ça, c'est encore un autre problème lié à la politique. C'est-à-dire que Kinshasa est en train d'être, d'une manière générale, asphyxié. Asphyxié par tout ce qui devait produire à l'intérieur du pays, sont en train de fuir l'insécurité à l'intérieur du pays. Pas seulement l'insécurité liée aux groupes armés, hein, même l'insécurité alimentaire. Il est dans une terre fertile, mais il fouille pour venir à Kinshasa.
Ça, c'est déjà un problème, oui.
Oui.
Ça,
c'est un problème. Donc, c'est un problème aussi mental. C'est un problème de conscience, un problème de conscience collective. D'où il faut des stratégies assez nouvelles, des stratégies nouvelles, et les états généraux de l'élevage et de l'agriculture, je pense que ça peut amener beaucoup de bien.
Mais est-ce que vous avez déjà commencé à penser à travailler là-dessus
Penser travailler là-dessus, on y pense, mais notre voie ne porte pas loin.
C'est compliqué. Et demain, donc, ça sera en une journée l'activité ou il y a d'autres, c'est une série d'activités qui sera organisée?
Il y aura en cette journée même la distribution des kits aux médecins vétérinaires qui travaillent en groupe. Par exemple, ceux qui se sont regroupés en des cabinets, on va distribuer les kits d'intervention rapide à ces médecins-là. Mmh. Il y aura aussi des thèmes de formation qui vont se dérouler demain. On va encourager aussi la jeunesse avec une prestation de serment demain. Donc ça sera une journée festive, une journée où nous célébrons la science de l'animal et nous célébrons la médecine vétérinaire.
Et c'est un métier noble, docteur, la science de l'animal?
Évidemment, c'est un métier très noble. Le médecin vétérinaire, c'est quand même un grand monsieur. Et pour comprendre ça, la plupart des médecins qui n'avaient pas une bonne vision de la médecine vétérinaire, quand ils nous rencontrent dans nos bureaux, ils nous rencontrent dans nos maisons, ils comprennent ce que nous sommes progressivement. Ils ne nous sous-estiment pas comme c'était dans l'État. Parce que à l'époque même du fait maréchal Mobutu, Thérèse Mémoire, il y avait même le ministre qui demandait à ce que l'on puisse supprimer la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Lubumbashi. Donc, mais c'était pas sa faute, il ne comprenait pas. Le monde évolue, la science évolue, et nous devons aller de l'avant.
Merci beaucoup. Cette fois-ci, on va aller au standard. Hein. Il est temps de donner la parole aux auditeurs, docteur Alain Moukoua. Quelle est l'importance de la médecine vétérinaire en RDC? Nous en parlons dans cette première partie du magazine Okapi Service. Si ce thème vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous. Nous allons vous rappeler pour intervenir en direct.
Merci.
Le premier auditeur, il est à Bandundouville, il s'appelle Pati Maïmba. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour cher Tati, bonjour à notre invité et à tous ceux qui nous suivent. Bon, je suis un peu perdu. La médecine vétérinaire, bon, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas tellement, hein, tel que l'invité vient de le parler là. L'invité, j'aimerais que vous puissiez vous expliquer ou vous démarquer de l'OCC quand vous parlez en quelque sorte du contrôle des produits alimentaires. Donc je reste dans ce cadre, les produits alimentaires qui viennent dans des pays étrangers. Vous avez parlé notamment des Makolasoso, les Mabumasoso, les Mikongo et consorts. Bon, vous dites le fait que vous n'êtes pas branché, on est en train de vous soustraire en quelque sorte, hein. Nous mangeons tout ce que nous mangeons ici et nous sommes devenus ce qu'on est devenus ici. Maintenant, quelle est votre différence par rapport à l'OCC? Est-ce que les agents de l'OCC sont forcément les médecins vétérinaires ou il vous faut aussi pour qu'ils soient au grand complet? Et la deuxième question, qu'est-ce que vous faites dans des abattoirs, là où on abat les bêtes? Malheureusement, nous, chez nous, ici, bon, on abat les bêtes, même par terre, comme ça, vous trouvez, on étale un vieux sac. Bon, on prend son cochon, on met là sur un vieux sac, et puis on commence à disséquer un morceau. On vient avec au marché, des fois, on vient avec des histoires déjà pourries. Quand on vient avec, c'est toute une caravane de mouches qui vous suit derrière. Bon, on entre avec au marché. Nous voyons un peu les services de l'hygiène, hein. Nous les voyons un peu, mais la médecine vétérinaire, bon, je ne connais pas. S'ils sont là, mais par rapport à la vaccination des bêtes, comment vous faites? Est-ce que ce sont les éleveurs qui apportent leurs bêtes chez vous? Et chez vous, là d'abord, on ne connaît pas si c'est où. Ou c'est vous qui faites la vaccination routine? Et pour finir, qu'est-ce que vous voulez? Quand vous dites qu'on ne vous considère pas, les ministres qu'on place dans les services, ils font semblant, vous voulez quoi? Est-ce que c'est aujourd'hui que cette science a 10 jours ou c'est une science de longtemps? Parce que nous, on connaît seulement les médecins humains, ceux qui nous traitent. Bon, vous, on ne vous voit presque pas. Et du coup, là, vous réclamez que vous soyez aussi là, mais vous faites quoi? Et vous voulez quoi? Soit là, une de mes préoccupations depuis Bandundu-Ville. Nous vous remercions.
Merci beaucoup, M. Paty. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Bandundu que vous intervenez. Cette fois-ci, docteur, nous allons à Bounia donner la parole à Robert. Robert Adiokou, est-ce que vous êtes en ligne? Vous nous recevez?
Je suis en ligne.
Réduisez le volume de la radio. Écoutez-nous au téléphone et intervenez. On vous donne l'appareil.
Merci beaucoup. Félicitations et hommage à la radio Capi et à l'invité. Je commence par poser la question au peuple congolais. Qu'est-ce qui se passe dans notre esprit? Le but ultime de tout gouvernement, c'est d'amener la nation à l'autosuffisance et à la puissance. Autosuffisance et puissance dans tous les secteurs de la vie, à commencer par la nourriture. Comme pour dire, ce sujet est capital et ça doit faire l'objet des préoccupations des hommes politiques et de toute la population. Si on n'arrive pas à assurer l'autosuffisance alimentaire à la population, on n'a rien fait. On n'a rien fait, monsieur le journaliste. Félicitations. Si vous pouvez organiser cette émission pendant toute une semaine. L'agriculture sont plus que prioritaires. Mmh. On devrait même en faire l'objet des préoccupations. Au premier plan.
Monsieur Robert, dites-nous, comment est-ce que le secteur est organisé au niveau de la ville de Bounia, en Ituri, là où vous êtes?
Le secteur est bien organisé. Et nous, c'est une occasion aussi pour féliciter et remercier nos frères Hema, qui sont vraiment versés dans l'élevage. C'est génial. Mmh. Maintenant, le devoir des autorités politico-administratives, c'est d'envisager comment promouvoir l'élevage et l'agriculture. À titre illustratif, quand je fus conseiller du ministre provincial en charge de l'industrie, nous avons organisé les états généraux. Nous avons découvert un monsieur à Vitouri, à 4 km de Nioka centre. Je vous assure, il fait l'élevage de volailles, de chèvres, de moutons, de porcs. Il fait même la culture de géranium, un homme extraordinaire, mais très tracassé par les cadres et agents de l'État. Hein? Vraiment, j'étais malade là. Moi-même, je suis passionné de l'élevage. Il me reste quelques années pour entrer à la retraite. Je suis un agent de l'État. Vraiment, je suis flatté par ce sujet. Si le docteur peut en faire large diffusion, écrire même un livre qu'il peut distribuer à tous les 145 territoires pour qu'on en parle, C'est vraiment génial. Tant que nous n'arrivons pas à assurer l'autosuffisance alimentaire, je ne sais pas comment nous allons dire que nous sommes un peuple souverain, indépendant. Ça fait la honte. Moi, quand j'étais à Kinshasa, j'ai refusé les Thompson et les cuisses là. Même ici à Bounia, je refuse les riz importés. Donc, nous sommes capables de produire tout sauf rien. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre esprit, nous, les peuples congolais? Vraiment, Radio Capi, félicitations, hommage.
Merci beaucoup.
À vous-même et à l'invité.
Merci beaucoup, M. Robert
Adiokou. Radio de la paix, de l'unité, de cohésion nationale.
Merci beaucoup, M. Robert Adiokou. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Bounia que vous intervenez. C'est très édifiant, votre témoignage. Docteur Alemoukoua, comment répondez-vous à nos auditeurs? Commençons par Paty, hein, de Bandundouville.
Merci beaucoup, M. Paty, de Bandundouville. Merci. J'ai dû comprendre dans votre question, dites que comment expliquer que tous ces déchets, c'est-à-dire atterrissent dans nos assiettes et les services de l'OCC font quoi? En fait, au niveau des importations, chaque importateur déclare ce qu'il amène dans la ville. Mais quand c'est déclaré, c'est déclaré pour usage des, c'est-à-dire ça va servir d'alimentation animale. Mais quand ça arrive à Kinshasa, on consomme ça, même l'homme consomme. Il faut maintenant rétablir ce que l'on dit la traçabilité. Parce que l'OCC travaille beaucoup à la frontière, mais l'OCC ne travaille pas à l'intérieur. Une fois que c'est déjà entré, c'est-à-dire ce sont des importateurs qui doivent être sincères, et en même temps, l'État, avec son service de quarantaine, qui doivent être tous très aux aguets, de telle sorte que si un produit entre en République démocratique du Congo, qu'il soit utilisé sous les labels par lesquels il est entré. Parce que à la frontière, on dit que c'est pour nourrir les animaux. Quand ça entre à l'intérieur du pays, les mangala et les poissons
commencent
à nourrir l'homme.
C'est pas
donc
possible.
C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Alors, en ce qui concerne les abattoirs, dans les temps, tu sais que dans chaque commune, il existait un service vétérinaire. Et ce vétérinaire-là était bien payé. Mais aujourd'hui, dans chaque commune, dans chaque territoire, on n'a pas parfois des vétérinaires. Et si on en a, ils sont dans un coin négligé où ils n'ont même pas de salaire. Ils n'ont même pas les numéros matricules. Alors que les numéros matricules sont donnés à pléthorie à Kinshasa, ils n'ont même pas les numéros matricules, ils n'ont pas de salaire. C'est-à-dire, ce qui fait que le désordre s'est installé dans un secteur oublié et les gens peuvent abattre n'importe où. Cela crée un problème très sérieux de santé publique vétérinaire, parce qu'à ce moment-là, il y a des pathologies. Une fois qu'on l'attrape, on peut mourir, hein. On peut mourir. Et donc, c'est pourquoi, avant d'abattre un animal, on doit inviter les médecins vétérinaires, inviter les vétérinaires, pour qu'ils regardent si cet animal vaut le coup d'être mangé. On ne mange pas n'importe quoi. C'est comme les gens qui mangent les chiens à Kinshasa et les chats. Ces gens-là finissent par mourir de rage, ils finissent par mourir de plusieurs maladies. Mais bon, comme les Congolais aiment mourir en silence, et c'est comme si rien ne se produit. Donc, alors, pour les vaccinations, dans plusieurs pays au monde, les vaccinations sont l'apanage d'un service de l'État pointu. Hein, les services de vaccinations animales. Hein, par exemple, au ministère de l'élevage, il y a un service subventionné pour vacciner les animaux contre les maladies les plus dangereuses.
Docteur, on y va d'abord au standard et puis on va retourner au studio. Okay. Il y a un auditeur qui appelle de Bukavu. Ouais. Monsieur Eminent, bonjour et bienvenue dans Okapi Service. Eminent Mwanda, est-ce que vous me recevez?
Oui, je suis là, bonjour.
Bonjour, on vous donne la parole, allez-y.
Oui, je suis vraiment intéressé par le sujet. Je vais d'abord poser certaines questions à l'invité. Monsieur Tati, nous avions vécu au village, nous avions vu comment les vétérinaires partaient dans les abattoirs pour, je sais pas, pour prélever, soit se rendre compte de l'état de viande que la population va manger. Par exemple, quand ils arrivent dans un abattoir, ils évaluent, ils testent après, ils disent que ça va, cet animal peut être consommé. Mais il y a des inquiétudes. Pour quel est l'objectif des vétérinaires dans les abattoirs? Ils partent faire quoi là-bas? Parce qu'il y a certains, même bétail, qu'on suppose être malade, mais les vétérinaires partent là, ils prennent seulement certains kilos et ils partent après, le quoi l'animal continue à être vendu. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, je crois que la fois passée ici au site Kivu au niveau de Mwenga, il y avait 80 vaches plutôt qui voulaient être vendues au niveau de Mwenga, qui étaient décédées. Mais ici, il y avait des vétérinaires qui avaient accordé le déplacement de ces vaches-là. En cours de route, il n'y avait même pas deux jours, ces 80 vaches-là étaient décédées en même jour. Et pourquoi maintenant, quel a été le rôle de nos vétérinaires réellement ici, qui avaient même permis à ce que ces vaches... Parce que si ces vaches arrivaient à la destination, la population pouvait consommer ça. Mmh. Et pourtant, j'avais bien suivi l'invité, il a dit que les rapports entre le vétérinaire et la médecine humaine, c'est que tous concourent au bien-être de l'humain. Mais ce qui n'est pas le cas ici chez nous en RDC, mais c'est ici, nous sommes en train de déplorer certaines choses, mais après, il y a des alertes qui se passent. Je me rappelle la fois, parce que quand j'étais encore à Chabunda, il y avait même des alertes qu'on avait dit que non, désormais il y a des vaches qui viennent du Rwanda, qu'on ne peut pas consommer. Mais avec les influences, on a imposé même les gens de consommer, là c'était pendant une période festive. Alors, je voulais, par cette occasion, parce que c'est le numéro un des vétérinaires, tu puisses réellement d'abord répertorier ou restructurer les services vétérinaires au niveau national, pour vraiment épargner cette population d'enjeux qui guette la darée de viande à travers le pays.
Merci beaucoup, Eminent. Excellente journée au niveau de la ville de Bukavu. On n'a plus assez de temps, docteur Moukoua. En deux minutes, comment ramassez-vous les questions d'auditeurs?
Il y a beaucoup de questions auxquelles je ne peux pas répondre faute du temps. Mmh. Mais déjà des plus d'abord, je vous dis par exemple pour la question de notre ami de Bukavu qui dit mais quel est le rôle finalement des vétérinaires, parce que dans les abattoirs on a l'impression qu'ils ne foutent rien. Mmh. ils prennent de la viande et ils s'en vont et ils diagnostiquent mal sur les animaux. Ça peut arriver qu'on puisse mal diagnostiquer, ça peut arriver qu'on puisse mal agir, mais ce qui est très important, c'est de changer l'état de conscience.
Oui, docteur, le temps s'égrène vite. Hein.
C'est de changer l'état de conscience.
En quelques mots, un message de particulier à lancer à l'intention de la population congolaise, parce que là, on est presque à la fin de ces rendez-vous.
Merci beaucoup, monsieur les journalistes. En quelques mots, dire une petite conclusion. J'appelle tous les médecins vétérinaires d'abord à un état de conscience, à venir demain pour célébrer la journée mondiale vétérinaire. J'appelle les autorités du pays à prendre conscience que notre nourriture, notre santé, c'est en rapport avec la bonne nourriture que nous prenons. Si nous ne le faisons pas, notre espérance de vie va baisser, même si on amène des gens à l'étranger pour les faire soigner. Aussi, aux autorités à subventionner massivement les secteurs de l'agriculture et les secteurs de l'élevage pour que notre lendemain, parce que quelqu'un qui ne mange pas bien, quelqu'un qui n'a pas la nourriture, la bonne nourriture, il est sur les déshonneurs.
Merci beaucoup, docteur Alain Moukoua. Nous rappelons que vous êtes président de l'Ordre national des médecins vétérinaires de Kinshasa. Merci d'avoir été avec nous dans ces rendez-vous et à la prochaine occasion.
Merci.